je crois que les deux approches qu'on a eues ne sont pas à ce point compatibles. La démarche qui a été présentée sur l'acceptabilité sociale par les psychosociologues, elle s'insère plus dans une démarche de prédictive, finalement, de prévoir les comportements à venir, et puis aussi d'agir sur eux. Mais finalement, ce qui est intéressant, enfin ce qui m'a intéressé dans la présentation, c'est qu'à côté de cette démarche très volontariste et très constructiviste, finalement, par rapport à la société, ce qu'ils font émerger, c'est quelque chose aussi qui n'était pas prévu, qui est intéressant, qui consiste à dire que, ben, par exemple, il existe plusieurs formes de rationalité, qu'il y a une pluralité de rationalité, avec tout ce qui a été dit sur la pensée de sens commun, et vous avez bien utilisé le terme de pensée. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une valorisation d'un type de rationalité qui n'est pas du tout reconnu justement dans les modèles de prédictivité, dans la rationalité instrumentale qui est à l'œuvre dans ces modèles. Donc il y a plusieurs manières d'aborder ce type d'étude et de voir ce qu'elles peuvent apporter. Par rapport à l'implication de la sociologie des sciences sociales sur ces... Alors, moi j'ai été frappé quand même dans ce que vous avez distingué de type d'approche à travers vous exposé, celle qui évoque des problèmes, pose des problèmes, qui a une attitude plutôt critique, qui serait plutôt une attitude en position du chercheur, du sociologue dans un rapport d'extériorité à ce dont il parle, donc une critique plutôt extérieure. Et puis, une pratique par rapport à cette question de développement durable, question du temps climatique, qui serait plutôt tournée vers la recherche-action, c'est-à-dire la transformation de la société, donc orientée à l'action. Et vous avez ajouté, pour la deuxième démarche, qui prend au sérieux les risques climatiques. Comme si la première approche, qui se veut plus critique, ne prenait pas au sérieux la question du tournant climatique. Ce que je ne pense pas être le cas. Par contre, c'est vrai qu'il y a une vraie peut-être différence, mais encore une fois, je pense qu'elle peut être relativisée, comme je viens de le dire, c'est qu'il y a peut-être effectivement deux approches, deux conceptions, deux compréhensions différentes des sciences sociales. Moi, je pense que l'initiative revient toujours à la société, qu'on ne peut ni la prévoir, que particulièrement ça se pose pour la question du usage, et là, on renvoie vraiment à la question du temps, de la temporalité. C'est qu'un usage... ça ne se fabrique pas, ça ne se construit pas, pour le coup, ça n'est pas prédictible. On n'est pas dans un régime temporel de prédictibilité. Donc la main revient toujours à la société. Et je conçois le rôle du sociologue plutôt comme un témoin des mouvements, des dynamiques à l'œuvre, y compris des contradictions à l'œuvre dans la société, plutôt que comme un auxiliaire, et ça renvoie plus davantage à votre préoccupation, plutôt que comme un auxiliaire pouvoir public ou de l'administration qui consistera à concevoir la rôle sociale comme celui qui va donner des moyens, des outils permettant de fabriquer la société. Et là, on est plus dans une approche en termes d'ingénierie sociale dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. Donc je ne me reconnais pas non plus dans cette approche critique extérieure dont vous parlez. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, parler des imaginaires liés, associés à différentes définitions, différentes représentations de domestication, c'est d'une certaine manière aussi témoigner de cette dynamique sociale et quelque part rendre compte d'elle, les mettre en lumière et donc les valoriser. Et moi j'insiste toujours beaucoup dans mon approche anthropologique justement sur finalement ce que j'essaie de faire simplement être, enfin c'est pas si simple que ça, mais témoigner, mettre en lumière les pratiques sociales, c'est-à-dire les initiatives prises par la société, par elle-même, et pas tellement d'essayer de les influencer ou de tirer, ou d'être l'intellectuel guide qui va orienter les bonnes, qui va définir les bonnes pratiques. C'est pas, je ne me reconnais pas du tout dans ce point de vue normatif, et ni dans une critique qui elle-même pourrait être considérée comme normative également, puisque une critique qui se positionnerait en termes d'extériorité, comme vous l'avez dit, suppose que on sait ce qu'il faut faire, quelque part, que l'intellectuel est le guide. Moi, je ne me reconnais pas du tout. L'approche de l'anthropologie, c'est justement celle qui va essayer de faire valoir, justement, les savoirs profanes, amateurs dont on a parlé, et faire reconnaître leur légitimité, finalement. Montrer leur légitimité en tant que savoir, en tant que pensée, et en tant que rationalité. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour répondre rapidement. Vous avez posé plein d'autres questions sur la visibilité et l'invisibilité. tout à fait important. Alors, l'invisibilité, oui, l'invisibilité, toute technique, à partir du moment où elle est appropriée, j'aime pas trop le terme approprié, qui renvoie à propriété, qui, plutôt, à partir du moment où elle est incorporée, toute technique, quelle qu'elle soit, une technique du corps, ou une technique énergétique, jouer du piano, elle devient invisible. C'est-à-dire qu'elle se transforme en une sorte d'automatisme. C'est pas un automatisme de même nature que ceux dont j'ai parlé. Puisque pour incorporer une technique, il faut, et je l'ai dit, ça s'inscrit dans un temps long. C'est-à-dire qu'il y a un processus d'apprentissage qui, lui, est incompressible. Ça passe par un temps long et par un effort. Et par la sensation de l'effort. Et par la sensation de la résistance. Une résistance. Ouais. Toute personne qui a appris à jouer d'un instrument de musique, autre chose, comprendra ce que je dis. Enfin, l'apprentissage se situe dans ce temps-là. Hein. Et pour que la technique devienne invisible, qu'elle soit incorporée, ben, il faut passer par toute cette étape. L'invisibilité dont je parlais, c'était pas celle-là. C'est une invisibilité, justement, qui ne nécessite pas d'apprentissage. Qui passe par le refoulement de cet apprentissage et de cette temporalité d'apprentissage. C'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont des prêtes à penser et prêtes à faire. C'est de ça dont je parlais. Avec un rapport comme ça de facilité, de simplicité d'usage. Les ingénieurs, maintenant, travaillent énormément là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut rendre les objets techniques à leur emploi le plus simple possible. Comme si les usagers n'avaient pas l'intelligence de comprendre les objets qu'ils utilisent et de les replacer, ces objets, à l'intérieur de l'environnement qu'ils maîtrisent. Enfin, c'est des débats qui pourraient être... Enfin, ça pourrait être très très long. Et ben, de ça maintenant, ça me paraît... Mais enfin voilà, il y a plusieurs formes d'invisibilité. Effectivement, l'invisibilité en soi, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. La technique suppose aussi l'oubli de la technique. Mais il y a plusieurs formes d'oubli. Il y a des oublis plus aliénants que d'autres. Voilà. L'acceptation, a priori, oui, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour les politiques publiques. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je pense pas que les sciences sociales puissent se contredire. Sans se contredire, adopter une posture normative. C'est-à-dire qui consiste à dire, à orienter la société, à dire c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, voici les bonnes pratiques. Je ne crois pas à cette compréhension, en tout cas, de la discipline des sciences sociales. Je crois que le lieu des sciences sociales est ailleurs, c'est que nous, encore une fois, c'est de permettre de reconnaître, au contraire, l'autonomie de la société et sa capacité d'initiative. Et c'est à travers ces mouvements. Pas plus loin. Là-dessus, ça entraînait aussi très souvent de ce qu'on peut dire aujourd'hui. Les objets de le vivant, alors là, oui, ça c'est énorme. C'est toute la question de la cybernétique, des machines cybernétiques, du tournant que ces machines cybernétiques représentent dans l'histoire même de l'automatisation et des automatismes. Avec effectivement le vivant qui a été le fonctionnement des organismes vivants, qui a été une sorte de modèle pour cette conception de technique, avec tout ce que ça ensuite, toute une façon dont ça se traduit ensuite dans la réalité, dans les pratiques et dans le côtoiement de ces machines, et la manière dont ça modifie, dont ça déplace notre représentation justement de vivant, donc ce n'est pas, donc ça fait bouger des frontières qui, du coup, ça montre aussi leur porosité, voire des déplacements de sens. Je pense que c'est un bel objet pour l'anthropologie. Là, j'ai donné plusieurs approches, plusieurs définitions de vivant dans mon bref exposé, avec un vivant artificiel qui est celui proposé par la cybernétique, qui est évidemment pas du tout du même ordre que le vivant dont parle Castoriadis à propos de la pensée humaniste.